Italie, l'automne chaud de 1969. L'article suivant est extrait du journal de nos camarades italiens, l'International, numéro 93 de septembre 2009. Entre la moitié des années 50 et le début des années 60, en moins de 10 ans, la société italienne était passée d'une société mi-industrielle, mi-agricole, à une société industrielle évoluée. Cette période dite du miracle économique allait finalement déboucher sur cette véritable explosion sociale que fut l'automne chaud de 1969. Les prémices. Entre 55 et 60, plus de 8 millions et demi de personnes émigrèrent du sud au nord et vers les grandes villes. Quelques faits survenus dans les années 60 indiquaient déjà que cette jeune classe ouvrière amenait un sang nouveau à l'ancienne, auparavant contrainte par le patronat aidé du stalinisme à reconstruire le pays dans le sang et les larmes au nom de l'unité nationale. En juin 62, à la Fiat de Turin, qui depuis des années n'avait plus vu de mouvement, une grève éclatait, entraînant des milliers de travailleurs pour le renouvellement de la convention collective. La direction de Fiat signa un accord bidon avec les syndicats UIL et SIDA, un syndicat jaune patronal, et de plus proclama le lock-out. La réponse des travailleurs fut une manifestation devant le siège de l'UIL, Piazza Statuto, qui fut pris d'assaut. Elle fut suivie de violents affrontements entre la police et des ouvriers de Fiat, en grande partie jeunes et d'origine méridionale, aidés d'autres travailleurs, eux aussi immigrés depuis peu dans la grande ville industrielle. En 1966, durant une grève, naquit le premier organisme ouvrier de base, le Conseil d'usine de Siemens à Milan. Combattu par les syndicats, il disparut après la grève, mais cette première expérience démontrait que parmi les travailleurs existait une volonté de participer à la lutte en élisant leurs propres représentants sans se fier aux bureaucrates syndicaux. Cela allait être explicite durant toute l'année 68 chez Pirelli à Milan, avec la naissance du comité unitaire de base, la CUB, qui déclarait désirer, citation, la plus grande démocratie de base, car tout doit être construit dans la lutte. Fin de citation. En 68, à Val d'Agno, petite ville de la Vénétie réactionnaire ayant toujours vécu autour de l'industrie textile Marzotto, la colère ouvrière éclata de façon imprévue. Parmi ces travailleurs du textile, soumis à un paternalisme digne du XIXe siècle, un conflit sur les temps se transforma rapidement en une grève et une révolte. Le 19 avril, la population de la petite ville descendit dans la rue, affronta la police et alla jusqu'à jeter bas la statue de Gaetano Marzotto, fondateur de la dynastie patronale du lieu. Le 2 décembre 68, encore, à Avola, en Sicile, la police tirait et tuait deux ouvriers agricoles en grève. Quelques mois après, le 9 avril, la même police tuait deux personnes à Battipaglia, en Campanie, au cours d'une manifestation contre des fermetures d'entreprises. 1969 et l'automne chaud. Mais en ce printemps 69, des luttes éclatent dans des centaines d'usines, grandes et petites, sur les mêmes thèmes, pour l'égalité salariale et contre l'autoritarisme, voire la répression régnant dans les entreprises. À l'avant-garde, on trouve les plus grandes usines, où leur nombre met les travailleurs en confiance. Fin juin, une grève éclate chez Montedison, à Porto Magrera, près de Venise, où, après la méfiance initiale, beaucoup de travailleurs accueillent favorablement les manifestations de solidarité des étudiants que les syndicats accusent d'utiliser la grève à des fins politiques. La grande usine Fiat de Mirafiori, à Turin, elle aussi, est en ébullition. Le 22 mars, les ouvriers des presses décident l'autoréduction de la production. Le 11 avril, c'est la grève totale, les ouvriers sortant en rang serré des ateliers pour la première fois depuis 20 ans. Mais début juillet, c'est une véritable bataille de rue qui se déroule. Le 3 juillet, pour tenter de reprendre les choses en main, les syndicats proclament une grève générale contre les loyers trop chers. À Mirafiori, la manifestation se transforme en une bataille avec la police qui dure plus de 10 heures. aux travailleurs de Fiat s'associent les travailleurs des communes de la banlieue turinoise et les habitants du quartier. Les affrontements ne finissent qu'au cœur de la nuit. L'automne coïncide avec le renouveau de nombreuses conventions collectives et les directions syndicales sont dans une situation délicate, risquant d'être débordées par les luttes spontanées des travailleurs. À la longue, cependant, elles réussiront à canaliser les luttes dans la bataille pour les réformes, à leur profit et à celui des partis réformistes. Les succès électoraux du Parti communiste italien dans les années 70 vont ainsi être le reflet de la vague ouvrière née lors de l'automne chaud. La reprise du travail après la pause estivale coïncide avec la reprise des grèves. Le 2 septembre, une grève bloque Pirelli à Milan. Le même jour, à la Fiat de Turin, une grève de 2 heures proclamée par les syndicats et prolongée par des centaines de travailleurs de la chaîne de montage, bloquant celle-ci en amont et en aval. En peu de temps, 30 000 travailleurs sont renvoyés chez eux. C'est une tactique de la direction pour les dresser les uns contre les autres, alors que les vacances à peine finies, ils ont bien peu d'argent devant eux. La bureaucratie syndicale reprend la situation en main, réussissant à obtenir de Fiat le retrait de cette suspension et à isoler, selon ses mots, la citation « minorité d'ouvriers extrémistes qui, en bloquant la chaîne de montage, font du tort à tous les travailleurs ». Fin de citation. Le renouvellement des conventions collectives concerne dans le pays des milliers d'entreprises. Le 6 septembre, ce sont les ouvriers métallurgistes de la chimie et du bâtiment qui sont en grève. Le 11 septembre, de nouveau, les métallos. Le 16 septembre, ce sont les ouvriers de la chimie et du ciment et les métallos des industries à participation d'État. Le 24 septembre, la direction de Pirelli lockout, entraînant les jours suivants une grève générale à Milan, qui la contraint à faire marche arrière. Le 8 octobre, Fiat Mirafiori est en grève. Le 9 octobre, c'est la grève générale dans le Frioul. En même temps, à Gênes, un des pôles sidérurgiques italiens, des dizaines de milliers de métallurgistes en grève défilent dans la ville. Les grèves se succèdent, non seulement à Milan et à Turin, mais aussi dans 100 autres villes, à Rome, à Piombino, à Marina di Pisa, à L'Aquila, à Naples, où le 16 octobre, 40 000 métallurgistes font grève. Le 17 octobre, c'est une grève générale nationale à laquelle participent des millions de travailleurs. En novembre et décembre, les syndicats réussiront à faire approuver les conventions collectives secteur par secteur, émiettant ainsi le mouvement. C'est presque à Noël, le 21 décembre, dans un climat politique désormais profondément modifié par l'attentat de la Banque de l'Agriculture quelques jours plus tôt, que la signature de la Convention de la métallurgie met fin à l'automne chaud. La campagne contre les extrémistes. À partir de novembre, la bourgeoisie, d'abord surprise et effrayée par l'intensité des luttes ouvrières, commence à orchestrer une campagne de presse contre les extrémistes, entre guillemets. La première occasion en est les événements du 19 novembre à Milan, quand des affrontements entre manifestants et policiers aboutissent à la mort de l'agent Anaruma, frappé à la tête par un tube d'acier, selon l'enquête officielle. L'attentat à la Banque de l'Agriculture de Milan, le 12 décembre, dû en fait à l'extrême droite, exaspère encore la campagne de presse. Les anarchistes en sont accusés. L'un d'entre eux, Pietro Valpreda, est accusé d'en être l'exécuteur matériel, tandis qu'un autre, le cheminot Giuseppe Pinelli, meurt, sans doute poussé d'une fenêtre de l'immeuble de la police de Milan. Après l'automne chaud, le niveau de l'affrontement de classe allait encore rester élevé. Les résultats obtenus furent des améliorations de salaire et d'horaire, un notable progrès en matière de possibilités politiques et syndicales, avec la fin au moins pour quelque temps de l'autoritarisme patronal sans pitié qui avait régné depuis les années 50 dans toutes les usines. Le résultat aurait pu être encore plus consistant si la direction syndicale n'avait pas été aux mains des bureaucrates réformistes. Sans doute, les luttes de 1969 ne sortirent jamais des rails de la revendication économique. Il n'y eut pas de situation pré-révolutionnaire, comme beaucoup à gauche l'affirmèrent. Pris par l'enthousiasme de la lutte, et bien que le slogan « pouvoir ouvrier » ait été hurlé dans les manifestations par les ouvriers les plus radicaux et par les étudiants. En revanche, ces luttes auraient pu être l'occasion d'avancer vraiment vers l'implantation dans la classe ouvrière d'un véritable parti révolutionnaire. Ce ne fut finalement pas le cas, et à 40 ans de l'expérience de l'automne chaud, le problème reste posé.